Voilà, bonjour à tous. Elle est belle. Elle est diversifiée. Elle est colorée. Magnifique. Elle est unique. Elle est vivante. Parfois, elle est bruyante. Elle est sainte et pure. Vous avez deviné de qui je désire parler. Je veux vous parler de l'Église. Alors, j'ai déjà développé ce thème il y a quelques années, ici. Et j'avais travaillé un autre thème qui était la bouche de Dieu qui s'est exprimée dans le passé. Présentement, qui nous parle au travers de Jésus, et bouche qui s'exprimera encore dans le futur. Mais voilà que mardi matin, tout s'est bousculé dans ma tête. Et je crois que l'Esprit m'a demandé de revenir sur cette notion de l'Église. Alors j'ai pris à nouveau ce thème. Et nous allons faire deux lectures. La première dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Ça s'affiche, merci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et puis un deuxième texte dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les mets pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Conséquence, elle est tombée et sa ruine a été grande. Merci à Jean-Marc qui a été inspiré quand il a dit au début de ce culte, il est bon que l'Église se retrouve. Nous allons faire, si vous le voulez, ce matin un petit peu de maçonnerie. Alors vous me direz, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Alors l'on vous écoute. L'on vous regarde, Jean-Louis. Nous avons le choix entre différents types de maçonnerie. Il y a la maçonnerie de pierre de tout venant. Il y a la maçonnerie dite brouillée. Il y a la maçonnerie de pierre sèche, qui est ma préférence. Il y a la maçonnerie de parpaing de béton, mais comme ce sont des matériaux qui ne sont pas nobles, on en dira un mot tout à l'heure, on met de côté cette maçonnerie. Et puis il y a la maçonnerie de pierre taillée, posée au rang. C'est de cette dernière que je vous parlerai. Bon, est-il besoin de rappeler que l'Église n'est pas une œuvre d'homme. L'Église est l'œuvre de Dieu. L'Église est le grand chantier de Dieu, dans lequel Dieu a mis tout son savoir-faire de créateur. Et il dit, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Ésaïe 28, verset 17. Le prophète rappelle que dès les temps anciens, Dieu conçut un projet de salut pour les hommes, qu'il concrétiserait dans la personne de son Fils Jésus-Christ le moment venu. Nous savons que Dieu résolut de l'envoyer dans le monde. Et cette décision qu'il prit ne fut sans doute pas facile à prendre. L'on peut imaginer que le cœur de Dieu a saigné à l'idée de se séparer de ce Fils qu'est Jésus, son unique, qui est venu sur la terre pour nous sauver, pour souffrir sur une croix, pour mourir à notre place. Oui, le cœur de Dieu a dû saigner parce que ce Fils, nous est-il dit, faisait sa joie. Voilà le fondement. Voilà la pierre angulaire qui va marquer le point de départ et de référence pour toute construction spirituelle fiable, c'est-à-dire qui tienne dans le temps. C'est Jésus, unique fondement. L'on comprend mieux l'expression « pierre angulaire de prix » puisqu'elle désigne sa personne. Lorsque Pierre dit, affirme « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » en réponse à la demande de Jésus « Que dis-tu que je suis ?» Il parle du fondement. Vous savez, Pierre n'a pas eu à l'idée de succéder à Jésus. Pas du tout. Encore moins de devenir le leader de cette Église naissante. Il ne n'a pas dit dans son cœur, comme certains ont pu le dire, « Allons, bâtissons une ville et une tour et faisons-nous un nom. » Il n'a pas eu du tout cela à l'esprit Jésus, Pierre. Pardon. Vous savez que lorsque les hommes décidèrent ainsi de bâtir cette fameuse tour de Babel, Dieu ne laissa pas ces gens poursuivre ce projet de gratte-ciel. Dieu comprit que ces hommes, ces femmes auraient très vite, très tôt, d'autres projets plus audacieux. Et nous savons qu'il les dispersa sur la terre, sur toute la terre, en confondant leur langage. D'où la multiplicité des langues, des dialectes. Dieu est l'architecte et le constructeur de l'Église. Alors avant de mettre en œuvre une quelconque maçonnerie, il faut déterminer, je viens d'en parler, poser le fondement. Vous savez qu'un fondement, généralement, ne se voit pas. J'ai une foi affermie sur Jésus, mais ça ne se voit pas. Si, ça va se traduire dans mes actes, dans ce que je suis dans la semaine, avec les uns, les autres, lorsque je suis en réunion, comme en cet instant. les fondations sont généralement enfouies dans le sol, nécessitant parfois de creuser profondément afin de trouver ce que l'on appelle le bon sol. À Saint-Malo, que nous avons habité, juste qui touche les remparts, il y a ce quartier qu'on appelle le quartier, il y a les bassins, et puis il y a le quartier de Rocabet. Il faut savoir que ce quartier est construit sur d'anciennes grèves. On appelait cela les grèves de Charles, jusqu'à l'hôpital, si vous connaissez un peu la configuration de Saint-Malo. Et le dit bon sol, il faut aller le chercher jusqu'à 15, voire 20 mètres en profondeur. Cela génère évidemment de coûteuses fondations. Pour donner à nos vies une bonne assise, afin que celle-ci ne s'effondre pas aux premiers assauts du vent et de la pluie, Dieu a travaillé en profondeur nos cœurs. Il a travaillé en profondeur nos cœurs, afin que nos vies puissent s'édifier durablement. Il était nécessaire que le fondement soit posé en la personne de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire de prix. Ceci s'est fait par le travail de son esprit dans l'importante phase de conversion. Nous avons partagé 3 témoignages il y a 15 jours. Et nous savons que Dieu a travaillé ces personnes. Je crois que c'est même assez surprenant comment Dieu a pu travailler pendant des années et des années. Je crois bien pour notre frère, 25 ans, pas loin de cela. 35. Oui, mais 25 ans de travail. Bon. Oui, bon, enfin, ça a demandé du temps, on est d'accord. Ça a demandé beaucoup de temps. Mais on voit le résultat. Béni soit Dieu. Je lisais cette semaine que le PDG d'Orange, alors j'ai pas retenu son nom, a dit qu'il avait retrouvé le chemin de l'Église, qu'il avait négligé, étant incité en cela par son fils, et qu'il aimait aller là au temple protestant, je crois, parce que le pasteur disait de bonnes choses, qui lui faisait un bien énorme, et qu'il y avait des chants magnifiques. Ah, il chante beaucoup, dit-il, et c'est magnifique. Je dis cela pour prouver, démontrer s'il le fallait, que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Car ce n'est pas peu de choses qu'une conversion à Jésus-Christ. C'est un miracle plus grand à opérer qu'une guérison. Le travail de Dieu, je le soulignais à l'instant, dans le cœur d'un homme, d'une femme, peut parfois demander toute une vie. Nous ne convertissons personne. Nous en sommes incapables. Nous ne convertissons personne. Notre devoir, c'est de semer la bonne semence de l'Évangile. C'est de semer la bonne semence de l'Évangile. Et si cette semence trouve un terrain favorable, le bon sol, alors la semence lève, devient une plante, porte du fruit. C'est à Dieu qu'il appartient de faire lever la semence. Alors, Ceci étant dit, pour nous entretenir, au sujet de l'Église, posons-nous la question de savoir qui est l'Église. C'est l'ensemble de tous les croyants de la Nouvelle Alliance que le lien de la foi et l'action régénératrice de l'Esprit unissent à Jésus-Christ. L'Église est formée de tous ceux qui ont cru, de ceux qui croient ou de ceux qui croiront que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu dans une chair semblable à la nôtre et mort sur la croix pour nos péchés et que Dieu a ressuscité le troisième jour. C'est clair. Si l'on croit cela, eh bien l'on devient, comme cela a été dit, les rachetés du Seigneur, alléluia, nous sommes les rachetés de Dieu et nous sommes l'Église. Qu'on ne vienne pas vous en compter. Vous êtes les rachetés de Dieu et vous êtes l'Église. Car dès cet instant précis où ces personnes croient, où nous croyons, nous naissons de nouveau, nous prenons vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Cela seul forme l'Église. Vous qui croyez, bien-aimés, frères et sœurs, vous êtes l'Église. Alors il y a trois expressions que l'on retrouve dans les Écritures concernant cette Église. C'est l'édifice de Dieu, c'est la maison spirituelle, c'est le temple saint. Il s'agit donc bien d'une construction. Et c'est pourquoi je désire ce matin vous parler de maçonnerie. Quiconque désire entreprendre une construction se doit d'obéir à des règles et s'en tenir à des principes. On est bien d'accord. Si quelqu'un désire bâtir durablement une maison, il ne manquera pas de faire appel à un homme de l'art. Dieu est l'architecte et le constructeur, le tecton, le constructeur. Dieu a établi des plans et des croquis et il contrôle la bonne exécution. Il appartient que la mise en œuvre soit conforme aux diverses directives données, arrêtées, car Dieu, il se trouve, nous fait ouvriers avec lui. Non mais, vous réalisez, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu chérit. C'est ce qu'il a le plus à cœur de faire. L'édification de son Église. Et il nous fait ouvriers avec lui. Aussi, avons-nous entre les mains le manuel du parfait constructeur, la Bible, qui est le livre de Dieu. Nous sommes dans le texte de 1 Pierre 2, 4 et 5, appelés à nous édifier nous-mêmes. Cependant, l'édification de cette construction, comme je viens de le dire, est l'œuvre de Dieu, puisqu'il est précisé, vous êtes l'édifice de Dieu. Cette maison spirituelle n'est pas faite de main d'homme. À l'exemple de ces imposantes cathédrales, car le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, mais dans des cœurs, dans nos cœurs, désignés comme temple saint, où réside son esprit. Nous sommes des pierres de taille, nous sommes des pierres vivantes, et non du tout venant. D'accord ? Nous sommes des pierres vivantes, et non du tout venant. Pierres de taille, c'est-à-dire qui doivent s'adapter les unes aux autres et qui sont maintenues les unes aux autres par un liant à la prise excellente que j'appelle l'amour fraternel. Sans amour fraternel bien-aimé, ne perdez jamais cela de vue, sans amour fraternel, il n'y a pas d'Église. L'Église se reconnaît à ce que nous avons de l'amour les uns envers les autres. Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On est bien d'accord ? À ceci, tous reconnaîtront. Le voilà le liant à la prise exceptionnelle. Il nous est dit que Jésus nous a laissé un commandement nouveau. Pourtant, il existe déjà ce commandement, quand il nous est dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Eh bien, il est nouveau dans ce sens que dans son énoncé, il est différent de celui que l'on trouve dans l'Ancien Testament, quand il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Dans le Nouveau Testament, Jésus nous demande d'aimer l'autre, mon semblable, à l'exemple de l'amour que lui nous a témoigné en venant parmi nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Waouh ! Je crois que ce n'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Oui, ce n'est pas facile. Hein. Ne nous mentons pas, comme dirait Bernard Lecoq. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Ne nous mentons pas, non. Ça peut être chose difficile. Il y a des églises. Enfin, l'Église, pardon, est cloisonnée. N'y a-t-il pas une multitude de dénominations qu'on peut regretter ? Mais bon, voilà. L'Église peut être divisée. Il se trouve qu'il y a des églises qui sont divisées. Ne dit-on pas aujourd'hui qu'il y a au sein des églises, des frères, des sœurs qui trouvent le moyen de se faire des procès ? Il y a des couples chrétiens qui s'entre-déchirent et vivent l'enfer. Donc l'Église n'est pas parfaite. Je m'arrête là. Je disais qu'il y avait une multitude de dénominations, Église évangélique de Pentecôte, Église apostolique évangélique, Église évangélique libre et d'autres. C'est un constat. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, nous trouvons le terme de bannière. Ah, le terme de bannière. Avec notamment ce précieux verset que j'ai relevé dans le psaume 60 au verset 6, qui dit « Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent. » Alléluia. Eh bien, un véritable chrétien, une véritable chrétienne, un véritable enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, craint Dieu. Non pas qu'il en ait peur, mais il le craint, il le respecte. Alors et dans le Cantique des Cantiques, il y a ce très beau verset aussi qui dit que la bannière qu'il déploie est l'amour. Alléluia. La bannière de l'amour, frères et sœurs, est étendue sur nos vies. Elle l'est sur l'Église. L'amour de Dieu, c'est quelque chose. L'amour de Dieu, quand Dieu nous le fait ressentir, quand parce que nous sommes dans une difficulté, dans un problème, on sent sa présence et que là, au fond de notre cœur, l'Esprit nous murmure. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Regarde à la croix l'amour de Dieu en la personne de Jésus y a été manifesté. Alors l'Église locale est-elle parfaite ? Non. Si je pense à Kevin, il y a plein de choses à améliorer, mais vous savez, très souvent, et nous sommes dans ces pensées, Agnès et moi, dans notre temps de prière que nous avons en commun à la maison, nous sommes en train de réaliser qu'il y a encore beaucoup de choses à faire rien qu'au dedans de chacun de nous. Beaucoup de travail. Donc, vous voyez, on n'est pas parfait, on ne se croit pas parfait, et parlant de l'Église de Kevin, elle n'est pas parfaite. Mais elle réalise. Et je le dis à chaque fois, mais j'aime le dire et le redire parce que c'est ce qui nous a touchés, c'est ce qui nous a saisis. Il y a dans cette Église de l'amour pour les autres. Il y a de l'amour entre vous, frères et sœurs. Réalisant ce commandement nouveau que Jésus nous a laissé. L'Église d'aujourd'hui, imparfaite, incomplète, tiraillée, voire malade, doit trouver sa consolation dans le fait qu'elle est connue et aimée de Dieu, avec cette promesse que Dieu demeure avec chacun de ses membres. Vous en êtes conscient ? Vous êtes conscient que Dieu demeure avec vous ? Vous allez réaliser cette semaine encore que Dieu est là, parce que vous avez dû faire un choix, et que ce choix, vous ne l'avez pas fait selon ce que vous aviez imaginé, arrêté, pensé. Non, non, dit tiens, c'est curieux, j'ai choisi ça plutôt que cela, parce que Dieu est là, parce que l'Esprit est là et vous assiste. Elle est l'œuvre de Dieu, l'Église, et Dieu la chérit, au point que Christ la fera paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors comment cela peut-il se faire ? Ou pourra-t-il se faire ? Parce que l'Église sera parée des seuls mérites de Jésus-Christ. Œuvre, effort, renoncement n'interfèrent en rien. Vous savez que Dieu nous voit, chacun en particulier, du haut de son ciel, parce qu'il nous regarde. Il vous voit désormais au travers de Christ. Il vous voit au travers de Christ, vous qui croyez. Alors, Église constituée de pierres dites de tout venant, ce que nous étions avant de connaître Dieu. Des masses informes qu'il a fallu extraire de leur milieu naturel, pour nous, de la gangue, de la boue du péché. C'est le rappel de nos origines spirituelles qui ne sont pas glorieuses, car nous étions gangrénés par le mal. De surcroît, né de la poussière et destiné à retourner à la poussière, sans rien emporter avec soi. Hein. Mais le miracle de la conversion, c'est que toutes choses, alléluia, sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est un changement complet. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, qui ont une place assignée par Dieu dans l'Église. Et je vous pose la question ce matin, posons-nous la question de ce matin. Connais-tu ta place dans l'Église ? Occupes-tu la place que Dieu veut dans l'Église ? T'inscris-tu dans son plan ? Ton adaptation pose-t-elle problème ? Dieu est précis pour nos vies. Et chacun a sa place, je dis bien, et je le répète à bon escient, chacun a sa place dans l'Église. Jacques, Céphas, Jean étaient considérés comme des colonnes qui soutenaient l'Église. Il est dit dans l'Apocalypse que si l'on retient et qu'il y a en nous, donc on retient la parole de Dieu, si on la garde, et s'il y a en nous la parole de la persévérance, il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Jacques, Céphas étaient des colonnes qui soutenaient tout l'édifice. Ce n'est pas la vocation de tous, et ne cherchons pas à tout faire surtout. Réalisons, admettons, que nous sommes complémentaires les uns des autres. Comme ces pierres, vous savez, qui ont été taillées, formatées pour s'imbriquer les unes dans les autres. On peut même arriver jusqu'à avoir un plan précis ou un dixième, qu'on appelle plan de calpinage, où les pierres sont numérotées, m'entendez ? On fait une construction et chaque pierre est numérotée pour désigner quelle est sa place. Ça, c'est quand on est avec des pierres de taille et que l'on veut faire une construction magnifique. Réalisons que nous sommes complémentaires les uns des autres avec une fonction définie par Dieu qui lui est propre. Certains avec des charges plus lourdes, des responsabilités plus importantes. Ils sont des colonnes dans l'Église. Mais ils peuvent aussi être un linteau, un jambage, une clé de voûte, ou tout simplement une pierre de taille. Une pierre de taille parfaitement ajustée qui ne posera jamais de soucis, qui ne causera jamais de soucis à ses frères et à ses sœurs et aux conducteurs spirituels, ceux qui ont à veiller à la bonne marche de l'Église, parfaitement ajustée, donc utile à l'ensemble, pour que l'ensemble s'édifie. Notre désir à Agnès et à moi, partout où nous nous sommes trouvés, a été d'être utile, et surtout, de ne jamais poser problème aux serviteurs, conducteurs spirituels en place ou aux frères et sœurs, étant conscient que l'important, c'est d'être à la place que Dieu veut pour nous. C'est d'être à la place que Dieu veut pour nous. Ne perdons pas de vue que nous sommes faits ouvriers avec Dieu. Mais c'est quoi un bon ouvrier? C'est une personne qui sait ce qu'elle doit faire. Pas d'hésitation. C'est une personne qui obéit à celui qui la contrôle. À son supérieur hiérarchique, je veux dire, dans notre cas, au Seigneur. Un bon ouvrier ne discute pas les directives, mais suit les instructions qui lui sont données, on est bien d'accord. Et l'ouvrier n'est pas au-dessus des autres ouvriers. Si besoin est, il coopère avec les autres. Il est solidaire des uns des autres. J'avais une lecture à faire, 1 Corinthiens 3:9. Oui, juste ceci, je ne vais pas tout lire parce que le temps tourne. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. l'apôtre Paul met ici en garde, nous met en garde ici, sur la manière dont nous bâtissons, étant précisé que l'on ne peut bâtir sur le roc avec n'importe quel matériau. Nous ne sommes pas appelés, frères et sœurs, à faire n'importe quoi et à agir selon notre bon plaisir. Lorsque l'on entreprend aussi, c'est une autre pensée, pour Dieu quelque chose, nous devons penser le meilleur. Ce n'est pas d'une église low-cost que Dieu veut. C'est une église faite de pierres vivantes, des pierres qui ont du prix. Et Christ en a payé le prix à la croix pour qu'elle puisse s'édifier. Ceux qui introduisent des matériaux comme l'or, comme l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chaume, verront leur travail anéanti. À noter que dans l'ordre de l'énumération qui est faite dans ce texte que je vous ai lu rapidement, celle-ci est faite et celui d'une résistance de plus en plus faible au feu. Leur utilisation ne semble pas avoir été prise en considération. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, de quelle manière il bâtit. Dieu n'est pas un Dieu bricoleur. Il vous suffit seulement de regarder la voûte céleste par une belle nuit claire pour être émerveillé de voir cet ordonnancement. Eh bien, Dieu est aussi précis pour nos vies. Es-tu parfaitement adapté aux autres pierres ou es-tu bancal, instable? Es-tu encore au pied du mur parce que le maçon doit user de son burin et frapper? Mais il le fait avec délicatesse. Hein. Vous savez, quand j'ai connu l'épreuve de la maladie, il y a une trentaine d'années, quelque chose de vraiment pénible, de long, Dieu a usé du burin pour travailler Jean-Louis Guillon, parce que j'avais tendance, avant d'être converti, à faire valoir mon nom. C'est terrible. Eh bien, il a travaillé encore, 30 ans après, avec le burin, pour que tout cela ne reviennent plus jamais. Connais-tu ta place? Car l'on ne peut vivre sa foi seul. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Et Jean-Marc l'a bien dit d'entrée de jeu, l'Église est appelée à se retrouver. Nous avons besoin des frères et des sœurs, ne serait-ce que pour nous soutenir et nous encourager. L'Église est un édifice, une maison spirituelle, un temple saint et non pas un menhir. Bon, on est en terre bretonne, il y a des alignements à Carnac, mais ils ne sont pas reliés entre eux. Hein. Un menhir, c'est un bloc de pierre qui est planté, il est figé. Ce n'est pas une pierre vivante. Hein. Alors, il atteste peut-être d'une époque révolue, bon. Mais ce n'est pas une pierre vivante. Nous ne sommes pas appelés à être des menhirs, mais nous sommes appelés à former l'Église qui se retrouve, qui se regroupe, qui vit avec les frères, avec les sœurs. Dieu soit béni. Pas une maçonnerie de pierres sèches. Nous avons vu que nous sommes des pierres vivantes qui ont besoin d'être assemblées les unes aux autres et tenues ensemble par l'amour de Dieu qu'il a déversé dans nos cœurs et par l'amour fraternel que nous nous témoignons. Non pas une maçonnerie brouillée, c'est-à-dire de pierres posées comme elles se présentent dans les mains du maçon, et puis hop, je te mets du mortier, et voilà, ça va être celle-ci, ça. Bon, allez, on en met une autre, on recommence, non. Pas une maçonnerie de pierres brouillées, mais de pierres taillées, ajustées, calées. Alors, je passe sur les maçonneries de parpaing, de béton, parce que ce sont des matériaux industriels. Le résultat du travail de l'homme. Et l'Église est tout, sauf le travail de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le travail de Dieu dans nos cœurs. L'Église est composée d'hommes et de femmes que Dieu façonne à son image et qu'il travaille individuellement par son esprit. Ainsi s'édifie l'Église de Dieu qui est en voie d'achèvement car Jésus revient. Et je termine par un texte biblique, bien évidemment, relevé dans la version de M. Kuhn, Éphésiens 5, 25. Il est dit « Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée et l'a lavée à grande eau en lui donnant sa parole. » C'est le pouvoir de la parole de nous purifier, nous sanctifier. Il a voulu que cette Église fût placée à ses côtés. D'habitude, on lit qu'il fera paraître. Hein, vous savez, hein. Fiancé peut dire à sa fiancée, tiens, montre-toi, montre-moi comment tu es vêtu, habillé aujourd'hui. Voilà. Non, c'est plus que paraître. Il est dit ici, elle fut placée à ses côtés. Dieu se veut à nos côtés et son désir suprême, c'est de nous réunir tous dans le ciel pour que nous soyons pour toujours avec lui. Placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte et irréprochable. Amen. Dieu soit béni pour sa parole. Elle est la vérité. Je le remercie de m'avoir soutenu, inspiré, de m'avoir permis de dire ces choses avec simplicité. Merci, mon Dieu. Amen.